en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un plasticien qui a porté haut les couleurs de son pays, le Sénégal. Il avait d'ailleurs remporté à deux reprises, en 2002 et 2008, le Grand Prix Léopold Sédar Senghor à la Biennale de Dakar. De Ndarilo, on connaît ses personnages longilignes, en fer, en train de marcher, ces hommes ou ces arbres qui ont l'air de s'élever vers le ciel, ou encore ces femmes enceintes dont le ventre proéminent recèle des poupées multicolores. Mais qu'y a-t-il derrière ces créations et qui était vraiment leur créateur? C'est pour répondre à ces questions que nos deux invités viennent de publier une très riche et documentée monographie bilingue français-anglais aux éditions Les 5 Continents. En direct de Dakar, l'avocat et commissaire d'exposition Sylvain Sancalet, et en studio à mes côtés, Jacques Rouérou, ami des dernières années, mais ami intime de l'artiste. Darilo le Démiurge est paru aux éditions Les 5 Continents et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jacques Rouérou.
Bonjour.
Bonjour Sylvain Sancalet.
Bonjour, François.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct de Dakar. Jacques Rouérou, comment l'idée de cette monographie est-elle née?
En fait, c'est une demande de Ndarilo, qui, dans ces derniers mois, se rendait compte qu'il allait disparaître, ça c'était clair, mais que son œuvre risquait également de disparaître, parce que c'était une œuvre très éparpillée, qui est peut-être davantage en dehors du Sénégal qu'au Sénégal. Et autant l'œuvre qu'il avait laissée au Sénégal avait été très documentée, des expositions, des catalogues. Sylvain Sancalet d'ailleurs a rédigé la plupart de ces catalogues, donc c'était très bien connu. Par contre, Ndari se plaignait qu'il y avait toute une série d'œuvres qu'il avait faites au Canada, à Cuba, à Saint-Étienne, dont personne n'avait jamais entendu parler, et personne ne risquait d'entendre parler après son départ.
Ça veut dire que l'objectif de cet ouvrage, c'est d'être exhaustif?
Alors, ça c'était l'objectif. Être exhaustif, c'est-à-dire rédiger un catalogue général ou catalogue raisonné, ça dépend le vocabulaire qu'on emploie. Mais il s'est vite avéré que c'était une œuvre qui allait bien au-delà de ce que, enfin, moi j'étais capable, ou la petite équipe qui était autour de moi était capable de réaliser en relativement peu de temps. Et on a voulu profiter de ce 2020 année de l'Afrique, qui est maintenant devenu 2021, pour sortir ce bouquin et ne pas laisser trop de temps entre la mort de Ndari et puis faire ce travail de mémoire.
Voilà, ça fait 3 ans hein, que Ndarilo est décédé des suites d'un cancer du foie. Sylvain Sancalet, pour éclairer son œuvre, vous avez écrit vous-même avec Jacques Rouérou des textes dans cette monographie, et puis vous avez demandé à des contributeurs, à 6 personnes, de témoigner eux aussi, de partager leur regard et leurs souvenirs avec le lecteur. Comment ces personnalités ont-elles été choisies?
Alors là, vous posez une question qui est un peu complexe. D'abord, il y a évidemment ceux qui connaissaient l'artiste, il y avait ceux qui étaient disponibles, ceux qui avaient envie de participer à ce projet, et puis les thématiques que nous souhaitions voir abordées, de telle manière qu'il y ait une espèce de balayage relativement complet de l'ensemble des thématiques qu'il a été amené à aborder tout au long de sa carrière. Donc voilà un petit peu comment cela s'est fait.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de lui, Sylvain Sancalet?
Écoutez, c'est quand même quelqu'un que j'ai fréquenté pendant plus de 20 ans. Ce n'était pas un ami intime, c'était pas une personne que je voyais très régulièrement. En revanche, il avait une confiance que je crois très importante vis-à-vis de moi, et n'entamait jamais rien sans m'en tenir informé. Évidemment, le souvenir le plus poignant que j'ai de lui, c'est 48 heures avant sa mort, dans sa chambre d'hôpital, lorsqu'il m'a demandé, et qu'il a signé des papiers en ce sens, d'être son exécuteur testamentaire, celui qui pourrait non seulement aider ses filles et son épouse à lui survivre, et en particulier ses filles à faire des études, etc., mais également attester de l'authenticité des pièces qui pourraient se trouver sur le marché. Donc, si vous voulez, tout ça était quand même très Il savait qu'il allait mourir et qu'il allait mourir très vite après. Je le savais aussi. Et nous essayions tous les deux de donner le change et c'était particulièrement difficile.
Il est mort à l'âge de 56 ans, il est mort en France, hein, à Lyon. Il était donc effectivement très très jeune. Et vous, Jacques Rouyrou, vous l'avez connu sur le tard, c'est-à-dire que vous avez noué des liens extrêmement forts avec lui. Comment vous l'avez rencontré ?
Alors d'abord, je l'ai connu que 18 mois, donc j'ai pas le privilège de l'ancienneté comme l'a Sylvain. Et je l'ai rencontré grâce à Sylvain parce que c'est ce que je raconte dans ce livre. Nous avions, j'avais accompagné Sylvain chez Jean-Paul Blacher et ils avaient parlé d'un inconnu pour moi qui s'appelait Ndarilo. Et quelques mois après, Sylvain m'a appelé en me disant, écoute, toi qui voulais connaître Ndarilo, sache qu'il est en France, c'est pas rapatrié sanitaire, mais il a été expatrié sanitaire, disons. Et c'est comme ça que je suis allé le voir.
Alors, vous venez de citer un nom important, c'est celui de Jean-Paul Blacher, dont la fondation qui se trouve à Apt, dans le Vaucluse, contribue au rayonnement de l'art contemporain africain. Et il se trouve qu'une exposition intitulée Transfert se tient en ce moment là-bas jusqu'au 26 septembre et que les œuvres de Ndarilo y ont une place de choix. Et c'est là que notre reporter Amélie Beaucourt a rencontré pour nous Jean-Paul Blacher.
C'est une histoire d'amitié entre deux hommes dont la relation a commencé il y a près de 30 ans. Jean-Paul Blacher, aujourd'hui à la tête de la Fondation d'art contemporain qui porte son nom, se rend alors au Sénégal à la recherche des talents qui s'y cachent.
Je l'ai rencontré dans son atelier de Mbao, qui était près d'une distillerie dans la zone industrielle de Dakar, au bord de l'eau, sortie de Dakar. Et je peux dire que j'étais subjugué. Je suis arrivé à un endroit, il me semblait que la terre allait se relever. C'était recouvert de sculptures d'hommes qui marchaient, et on aurait dit que l'Afrique était en marche. Et je vois sortir Dari, qui était à l'image de ces sculptures, grand, mince, élancé. Et il y a eu un grand message qui est passé le premier jour. Je suis resté, non pas resté une heure, je suis resté toute la journée. Le lendemain matin, il est venu me retrouver à l'hôtel. On a discuté de son travail, ce qu'il faisait. Et j'ai été ébahi par le personnage, par sa volonté et surtout cette dynamique et son attitude qui allait avec son travail. C'était un gros travailleur, une très grande profondeur au niveau de ses explications et de là où il voulait aller. Donc c'est devenu, dès le premier jour, c'est devenu un ami.
Un ami dont il collectionne aujourd'hui une très grosse partie de l'œuvre sans savoir précisément combien de pièces il détient.
Moi, je collectionne par amour et pas par quantité, donc je sais pas. Je dirais entre 100 et 150 sculptures. Je pense que ça représente la moitié. Je pense qu'il y a encore une grosse moitié qui est dans un atelier, qui est magnifique à Rufisque, où il y a encore quelques belles œuvres, très belles. Je pense que ça correspond plus de la moitié sur la représentation du travail, sur toutes les époques, avec le suivi. Mais il y a un atelier qui est encore très vivant, avec de très belles œuvres.
Et parmi cette collection d'envergure, il y a une thématique qui l'a particulièrement touché.
Mais moi, c'est la marche des hommes. D'abord, peut-être parce que je suis en fauteuil et que la vie, c'est un combat de tous les jours. Et je suis comme Sisyphe. Tous les jours, il faut monter la montagne et tous les jours, remettre à l'œuvre ce qui a été fait, partir et par l'énergie. Je dis qu'on a la pensée, c'est une chose, mais sans énergie, on fait rien. Et Dari avait compris, et dans le mouvement de ces hommes en marche, et il représentait l'Afrique qui se met en mouvement. Donc quelque part, c'était pour moi un peu une résilience, un fantasme, un désir de marche aussi.
Sous la casquette d'artiste, c'est aussi et surtout la personne qu'il était qui a marqué Jean-Paul Blacher. Il le décrit comme un homme entier, pétri des combats qu'il menait.
C'était un homme vrai avec sa force, ses colères. Nous, on avait des débats extraordinaires, on avait une amitié très profonde, mais des disputes colériques. C'était un peu un révolutionnaire et aussi un idéaliste. C'était un bel homme, avec tout ce qui comprend la différence des hommes. Il n'était pas dans le chemin de la banalité, dans le consensus. C'était un guerrier.
Un guerrier qui a su dompter le fer d'une main de maître et à qui la Fondation Blacher consacre une place de premier plan dans sa dernière exposition, Transfert, en rassemblant ses œuvres avec celles d'autres sculpteurs et des œuvres anciennes qui ressemblent, à s'y méprendre, à certains travaux de Ndarilo.
Amélie Beaucourt dans VMDN. Amélie qui est revenue enchantée de cette visite à la Fondation Blacher, de cette exposition qui s'appelle donc Transfert, en deux mots et même en jeu de mots, puisque le fer, Sylvain Sancalé, c'est loin d'être l'unique matériau, mais c'est le matériau, on va dire, de prédilection des œuvres de Ndarilo. Pourquoi a-t-il adopté le fer ?
Alors, je suis bien incapable de vous dire la raison fondamentale de ce choix. C'était un matériau qui lui plaisait, c'était un matériau qu'il arrivait à dominer, à contrôler. Il a beaucoup travaillé au début plus avec des fers à cheval qu'il récupérait dans les rues, des vieux fers à cheval usés qu'il récupérait dans les rues, notamment de la ville de Ruffisque, qui est pas très loin de là où il était, où il y avait encore un certain nombre de charrettes à cheval qui circulaient. Et puis il est passé au fer à béton, qui est devenu véritablement son matériau de prédilection et avec lequel il a fait la très grande majorité de son travail, de ses œuvres. Alors le fer à béton était laissé tel quel, ou bien au contraire il lui mettait un revêtement dans différentes matières, ou alors il lui est arrivé de le peindre et éventuellement de rajouter dessus des tissus ou des choses de ce genre. Mais enfin bon, le fer restait effectivement la base de tout. Et il a beaucoup travaillé avec son fer à souder pour arriver à rassembler ses tiges de métal et en faire tous les personnages qui sont sortis de ses mains.
Bon, il n'y a pas que le fer quand même, Jacques Rouerou, puisqu'il a utilisé plusieurs matériaux de récupération, des os, des tissus, du bois, des plastiques. Et c'est vrai que le mot récupération, c'est un mot qui est très important, y compris pour le fer d'ailleurs. C'est un mot très important pour comprendre la façon dont il concevait son ouvrage. Il y a un mot d'ailleurs qu'il a inventé pour décrire sa façon de travailler, c'est le mot daptaïsme. C'est quoi le daptaïsme?
Moi, je préférais qu'on parle un petit peu plus de la récupération, parce que c'était vraiment fondamental dans l'œuvre de Ndari, dans la mesure où, alors que c'était, disons, à la mode, à Dakar, lui a fait partie d'un petit groupe qui s'appelait À Horizon, avec Melody Bull, qui a d'ailleurs écrit un texte dans ce livre, et ils ont écrit un manifeste qui était que, pour eux, la récupération, c'était une idéologie. Et au-delà d'utiliser, disons, les déchets ou les rejets de la ville, ils en ont fait des matières premières signifiantes.
C'est-à-dire que ce sont des matériaux qui sont porteurs d'une histoire, d'un message de la vie quotidienne. Donc c'est une œuvre qui reste ancrée dans l'histoire des hommes.
Exactement. Et toutes ces installations ou ces sculptures, disons, à base de matériaux de récupération, doivent être considérées dans leur intégralité, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que certains collectionneurs enlèvent des parties ou autres, dans leur intégralité, parce que tous les éléments portent un message.
Alors, par exemple, on va prendre un exemple concret. Il y a L'Incompris.
Exactement, L'Incompris.
Par exemple, L'Incompris, qui est une œuvre qui date de 1999. Alors, justement, Jacques Rouerou, faites-nous comprendre L'Incompris, si j'ose dire.
Ça, c'est un peu compliqué. Mais disons que L'Incompris, si on regarde bien, d'abord, dans la tête, vous avez des poupées, la récupération.
Voilà, alors c'est un personnage en fer, un personnage filiforme. Donc, il y a une tête qui est assez massive.
Presque hydrocéphale.
Presque hydrocéphale, et à l'intérieur de la tête, il y a effectivement des poupées.
Et chaque poupée exprime une tension. Et une tension que, d'ailleurs, les deux mains du personnage sont autour de la tête, et cette tension, il n'arrive pas à la contrôler.
C'est un peu tempête sous un crâne, c'est ça l'idée ?
Exactement, exactement. Mais vous avez ce corps qui est habillé de rubans. Ces rubans, ce sont des tissus de récupération coupés en bandelettes. J'aurais plutôt dire des bandelettes que des rubans. Et pour Ndari, chacune de ces bandelettes porte le message de celui qui était habillé avec ce tissu. Et troisièmement, ça dépend sur quelle photo on regarde, mais sur l'ouvrage qui est exposé actuellement chez Transfert et qui est reproduit dans notre ouvrage, dans Darilo le Démiurge, Il porte, ce personnage porte une petite bourse en filet dans laquelle sont des semelles de tongs. Et ces tongs sont également signifiantes parce que Pondari, c'était le rejet des chaussures de ceux qui avaient embarqué dans des pirogues pour l'Europe et qui n'en étaient pas revenus.
Voilà, donc il raconte une histoire et même plusieurs histoires à travers les différents matériaux, les différents objets qui composent son œuvre. On parlait des poupées, il y en a aussi dans une autre œuvre, Sylvain Sancalet, je pense à Échographie, qui date d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, également de 1999, donc la même année que Les Compris. C'est en fait une série de trois sculptures.
Tout à fait, en fait... Il s'agit de femmes grandes et élancées et enceintes et dont le ventre qui est fait d'un maillage de métal est empli de poupées ou de têtes de poupées qui sont des poupées ramassées sur les plages, puisque Ndarilo aimait beaucoup, habitant à côté de la plage, aimait beaucoup aller ramasser tout ce que la mer pouvait rejeter. Et donc, c'est comme ça que sont composées ces œuvres qu'il a appelées échographies et qui permettent de voir tous les bébés du monde rassemblés, toutes couleurs confondues à l'intérieur de ce même ventre, mais également de voir toute la misère humaine, de voir toutes les difficultés, puisque les personnages ne sont pas des personnages triomphants mais on sent au contraire toute la misère du monde qui est portée par ces femmes, et il y a là énormément de significations qui peuvent être tirées de cet assemblage qui à première vue peut sembler totalement hétéroclite et qui l'est beaucoup moins qu'on ne le suppose.
Parmi les œuvres qui sont assemblées actuellement à la Fondation Blacher, Sylvain Sancalet, il y a aussi la muraille verte. Alors là, on passe, si j'ose dire, de l'échographie à l'écologie. La muraille verte, c'est une œuvre qui a reçu en 2008 le Grand Prix Léopold Sédar Senghor à la Biennale de Dakar. On peut dire que c'est une œuvre qui marque l'engagement écologique de Ndarilo pour l'Afrique?
Alors disons que c'est une manifestation de cet engagement, mais je pense que le personnage de Ndarilo avait une conscience écologique importante, et sa démarche de ramasser tout ce qui traînait sur les plages n'était pas seulement dans la recherche d'éléments pour des œuvres d'art, mais également une espèce de nettoyage, de purification des espaces. Et je sais que les préoccupations écologiques étaient les siennes depuis très longtemps.
Et donc la muraille verte, c'est aussi un moyen d'apporter son soutien au reboisement du Sahel et donc aux opérations anti-désertification.
Et donc c'est dans ce contexte qu'il a fait cette œuvre-là, mais ça n'était pas un début, mais au contraire, ça marquait une espèce d'aboutissement de sa démarche écologique.
Des arbres et des hommes, Jacques Rouérou, c'est comme ça qu'on peut résumer l'esprit
si on
des
peut parler de Ndarilo. De transcendance, quoi. Il est parti de cette idée du fait que si on reboise, on va arrêter le Sahel et on va permettre à des gens de continuer à vivre. Et pour en faire une œuvre dont il a dit lui-même: mes œuvres sont destinées à donner de l'espoir. Donc, ces arbres, c'est le symbole de l'espoir qui va être donné aux gens qui habitent là et qui, grâce au reboisement, vont pouvoir continuer à vivre.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar. gallant South. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck.
Strange Fruits, la chanson popularisée par Billie Holiday dans VMDN sur RFI, à la base un poème antiraciste de Lewis Allen, chanson qui est devenue un des symboles de la lutte contre le racisme et la ségrégation aux États-Unis. Une chanson, Sylvain Sankalé, qui a donné son nom à une des œuvres les plus marquantes de Ndarilo. Et quand on la regarde, cette œuvre, Strange Fruits, on se dit que finalement, c'est pas très très éloigné de la muraille verte qu'on évoquait à l'instant. C'est la même idée?
En fait, il y a eu à un moment donné dans la création de Ndari, assez tôt, une conscientisation de la situation des Noirs américains pour des Afro-descendants, et nous l'avons vu dans le livre sur ce qu'il a voulu faire à propos de la maison des esclaves de Gorée, etc. L'installation qu'il y a faite chez Madame Crespin, qui en parle elle-même dans son livre, et il y a cette installation du refus de Rosa Parks qu'il a présenté à une biennale et ensuite à plusieurs reprises sous des formes différentes, et donc les fruits étranges qu'il a pu montrer rentrent dans cette dynamique là et il est bien certain que il y avait chez lui une conscience politique d'une façon générale qui était extrêmement forte et sur laquelle il n'entendait pas transiger, et donc cette conscience de la situation qui pouvait exister aux États-Unis, mais qu'il élargissait à l'ensemble du monde, parce que il refusait de rester fixé ou sur un seul endroit du monde dans une seule situation. C'était chacun de ces manifestes avait vocation à l'universel, et c'est ainsi qu'il est passé à ces arbres-là. Alors, il y a toute une variation autour de l'arbre entre les arbres qui ne sont que des arbres, et puis les arbres qui ont des mains, et puis les arbres qui représentent des personnages, les arbres auxquels pendent des fruits qui sont des êtres humains pendus, etc. Et si vous voulez, on est toujours dans cette dynamique d'élévation. Que ce soit les hommes qui marchent, que ce soit les orangs, les bras en l'air, les bras au ciel, ou que ce soit les arbres. Et c'est cette même logique, cette même dynamique qui unit l'ensemble de l'œuvre de Ndarilo, qui était très spirituel.
Et je voudrais qu'on revienne justement, Jacques Prérou, sur l'intérêt de Ndarilo pour les grandes figures de la lutte contre la ségrégation, parce qu'il y a eu donc effectivement Strange Fruits, il y a eu aussi cette installation au musée africain de Lyon en 2013 avec toute une série de portraits, Martin Luther King, Malcolm X, Mandela, mais aussi Césaire, Marley. Est-ce que il l'estimait, est-ce que vous avez discuté politique avec lui, est-ce que il y a besoin que cette lutte contre le racisme, que cette lutte pour le droit des Afro-Américains, pour le droit au respect, que cette lutte s'incarne dans des hommes et pas seulement dans des œuvres?
Juste, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Sylvain en le renforçant, parce que de son dialogue, on comprend bien qu'il y a des œuvres majeures comme cette installation à Gorée chez Madame Crespin qui s'appelle Recours 2004, des installations sur la lutte contre l'esclavage, les eaux de mes ancêtres, celle dont vous venez de parler, le refus de Rosa Parks, et tout ça, ce sont des œuvres où je vois pas de marcheurs. Et plusieurs fois, depuis le début de cette émission, on parle de... Jean-Paul Blacher en a parlé, vous-même, Sylvain, on parle des marcheurs, mais en fait, je trouve que c'est très réductif. Et un des objectifs de ce bouquin, c'était de sortir de cette image du marcheur. Pour aller dans le sens de la recherche de mouvement, et c'était toujours dans le sens que vient d'exprimer Sylvain, il y a une phrase majeure, et là on en arrive à la politique, une phrase majeure qui apparaît dans les cahiers de Ndarido et qui est citée, qui est recopiée, etc. C'est une phrase de Nietzsche qui est « Monter, c'est ce que veut la vie, et en montant, se dépasser ». Et si on en revient constamment à cette phrase, je veux dire, il y a plus besoin de discuter de politique avec Darilo. D'ailleurs, moi, j'ai pas essayé de discuter politique avec lui parce que il reprochait à certains de ses amis d'avoir trahi sa pensée. Et le second objectif de ce livre, au-delà de retrouver des œuvres qui étaient en train de disparaître, c'était de lui donner un droit de réponse. Mais comme il était mort, ce droit de réponse, on n'est pas allé le chercher dans des paroles, mais dans ses écrits. Et c'est en trouvant ses carnets qu'on se rend compte qu'il y avait constamment cette recherche du mouvement, et comme le mot très fort que Sylvien vient d'employer, qui est élévation.
Alors, et l'élévation, justement, ça se voit dans les œuvres de mes ancêtres. Donc, l'une des œuvres que vous venez de citer, alors c'est très étonnant, parce que c'est une série de chaînes, je crois qu'on des chaînages, avec donc des maillons, qui sont verticaux, donc qui s'élèvent effectivement, donc, vers le ciel, avec du fer, avec des os.
Un maillon de fer, un maillon d'os.
Voilà. Alors les os, c'est pas les os des esclaves de Gorée, même s'il est allé chercher
ça, il l'a reconnu.
Son matériau là-bas, ce sont des os qu'il a.
C'est des rejets de restaurants.
C'est des rejets de restaurants. Ça, pour vous, c'est vraiment l'œuvre qui résume finalement tout l'engagement de l'artiste qu'était Ndarilo.
Au départ, dans ses premiers croquis, ces maillons, ils étaient superposés et non pas enchaînés. Et il y avait un maillon d'os sur un maillon de fer, un maillon d'os sur un maillon de fer. Et puis, il s'est aperçu qu'il valait mieux les mettre sous forme d'une chaîne et que cette chaîne, ça pouvait symboliser une échelle. C'est pour ça que dans la première exposition, dans la première installation 2004, dont vient de parler Sylvain, et qui est une installation majeure, on a une fouille, un grouillement de petites figurines en fil de fer qui montent le long de ces chaînes. Et ce sont ces chaînages, ces échelles, c'est un moyen de fuite. Fuite par le haut, élévation. Et je ne sais pas si on a encore beaucoup à parler, mais je veux pas raconter. Mais il y a un thème dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que ça nous emmènerait trop loin, mais qui est la crucifixion. Et paradoxalement, je veux dire, c'est un thème qu'il a traité pendant jusqu'à la fin de sa vie.
Mais il y a effectivement ce thème dans le livre. Il y a une photo d'ailleurs d'une installation où il est en train d'installer une croix chrétienne.
Et parce que lui a écrit les deux grands faits de l'histoire, la crucifixion et l'esclavage. Et la crucifixion, on peut se demander si c'est pas in fine une forme d'élévation, l'élévation finale.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Jacques Prérou et Sylvain Sancalet qui ont dirigé la monographie bilingue consacrée à Ndarilo qui vient de sortir aux éditions des 5 continents. Un livre intitulé Ndarilo, le démiurge. Et dans ce mot démiurge, Sylvain Sancalet, il y a évidemment la notion de création, mais une notion teintée de spiritualité. Alors dans quelle mesure l'œuvre de Ndarilo pour vous était une œuvre spirituelle?
Alors, pour moi, Ndarilo et donc son œuvre était tout entièrement tourné vers la spiritualité. Il n'en faisait absolument pas étalage dans les rencontres, etc. C'était quelqu'un qui ne n'était pas là en train de parler spiritualité à tout bout de champ, mais en revanche, dès qu'il s'agissait de discuter de son travail ou de discuter des inspirations qu'il avait pu avoir, ou si l'on voit simplement les thématiques qu'il a abordées, les titres qu'il a donnés à ses œuvres, la spiritualité suit ou précède son travail tout au long de sa vie de créateur. Et donc c'était une personne qui attachait énormément d'importance à la spiritualité, qui avait une très grande ouverture par rapport à cette spiritualité qui lui permettait justement d'embrasser un petit peu toutes les cultures. Il était profondément enraciné dans sa tradition musulmane dans laquelle il était né et qu'il pratiquait assidûment, mais il avait la curiosité des autres mythes, des autres rites, des autres coutumes, et il en a laissé des traces évidentes, dont les crucifixions sont les plus importantes.
Et puis il y a aussi une œuvre qui a fait beaucoup parler, c'est la prière universelle qu'on a pu voir à Avignon devant le palais des papes il y a quelques années. Donc structure monumentale, hein, plus de 7 mètres de haut, métal soudé, cet homme aux jambes interminables, hein, plus de 3 mètres d'envergure, qui pèse plus d'une tonne, les bras levés vers le ciel. Et là, Sylvain Sancalet, il y a une phrase que j'ai trouvé très très belle, qui est écrite par l'une de vos contributrices, Joël Busca: l'envol mène la danse. Alors parlez-nous justement de cette prière universelle, parce que je pense que pour le grand public qui n'est pas forcément spécialisé dans l'œuvre de Ndarilo, c'est vraiment une œuvre qui a profondément marqué à Avignon.
Oui, alors d'abord l'œuvre marquée par sa dimension. Pourtant l'esplanade devant le palais des papes est importante, mais quand on arrivait et que l'on pouvait voir cette esplanade avec cette statue qui était la seule qui était mise sur ce parvis, c'était quelque chose d'extraordinaire. Palais des papes à Avignon, prière universelle, exposé là par un artiste sénégalais musulman qui était en train de mourir, puisqu'il est mort pendant l'exposition. Et donc c'est quelque chose qui avait énormément de puissance et d'importance.
Artiste sénégalais, disait Sylvain Sancalet à l'instant. Pour vous, Jacques Ouerou, Ndarilo était un artiste sénégalais, c'était un artiste africain, c'était un artiste universel, c'était un artiste tout court?
Moi, je vois pas pourquoi vous dites tout court, c'était un artiste.
Voilà. Non, mais parce que c'est important, oui. Effectivement, de qualifier, effectivement, parce que l'art est à la fois très ancré dans le quotidien, on le disait tout à l'heure, notamment à travers les objets de récupération, et puis il s'adresse aussi à l'universel, à travers notamment cette spiritualité, mais pas seulement.
Oui, mais Sylvain est historien de formation, avocat, il est également critique d'art, et donc ça fait partie, à mon avis, de son contexte et de son métier de mettre des qualificatifs pour définir les choses, mais je pense que si on lui repose la question, il conviendra que Dari était un artiste.
Oui, mais quel est votre sentiment à vous, et comment lui-même se considérait? Vous en avez forcément parlé avec vous, il disait « je suis un artiste sénégalais, je suis un artiste de Rufi, je suis un artiste d'Afrique, je suis un artiste... »
Là, on va rentrer dans un débat aussi permanent, mais qui commence avec Imbat Diaye, qui continue avec Mustapha Dimé, qui continue avec tous les artistes. C'est-à-dire tous les artistes qui sont aujourd'hui traités d'artistes africains disent « nous sommes des artistes, pourquoi faire une différenciation entre artistes africains et pas africains ?» Et moi, je les suis tout à fait.
Alors cette résonance universelle, on peut en tout cas s'en rendre compte en visitant l'une des autres expositions actuellement autour de l'œuvre de Ndarilo, pas seulement d'ailleurs autour de son œuvre, Silent Walks, c'est le nom de cette exposition que la galerie Retour de Voyage présente actuellement à Lille-sur-la-Sorgue, toujours dans ce département du sud de la France qu'est le Vaucluse, exposition qu'Amélie Beaucourt, toujours elle, à visiter pour nous.
C'est dans une petite galerie des rues piétonnes de Lille sur la Sorgue, dans le Vaucluse, qu'on retrouve cette confrontation artistique inédite. D'un côté, Darglo, sculpteur, de l'autre, Tanchiote, peintre. L'un est sénégalais, l'autre est birman, et leurs œuvres respectives n'avaient jamais été mises au regard les unes des autres. Accrochés au mur, 14 tableaux aux teintes rouges, orangées, tirant parfois sur le rose et le violet, montrent des silhouettes d'hommes, de femmes et d'enfants, en marche. En arrière-plan, Tanchiote a dessiné des formes aux contours précis comme autant de régions strictement délimitées par des frontières. Une façon pour l'artiste d'aborder l'arrachement à la terre et le déplacement des populations. Frédéric Doll, fondateur de la galerie Retour de Voyage.
Il a fait tout un travail sur la migration au sein de son pays et au sein des différents États qui composent ce pays. Il y a 14 plans qui chacune représente à la fois les 7 États de la Birmanie et les 7 subdivisions. Et donc, il montre à travers là qu'on parle beaucoup de la problématique des Rohingyas, mais qu'il n'y a pas que dans cet état, l'état du Rakhine, où il y a des enjeux de migration, mais que l'ensemble du pays voit des populations qui sont chassées ou qui ont du mal à rester là où elles ont vu le jour, si j'ose dire.
Frédéric Doll a découvert Tanchiote il y a 7 ans lors d'un voyage en Birmanie, alors que le régime militaire commençait à permettre aux artistes d'avoir un peu plus de visibilité. En parallèle, la galerie exposait déjà les silhouettes longilignes de Darglo. Quand elle a pu avoir accès au célèbre marcheur, le rapprochement avec Tanchiote s'est imposé.
Quand on a eu la possibilité de réunir ces 7 marcheurs de Darglo sur la dernière série qu'il a pu faire avant de mourir, justement, sur les 15, il y en a 7 qui sont ici, tout de suite on a eu cette idée de faire écho et de réunir avec les œuvres de Darglo ces marcheurs, ou en tout cas ces migrants de Birmanie, et on appelait ça Silent Walks, puisque c'est effectivement aussi bien à Dakar qu'à Rangoon l'enjeu du mouvement que l'on peut présenter.
Pourtant, le message que font passer les œuvres exposées n'est pas le même dans les travaux des deux artistes.
Pour Darglo, c'est le mouvement. C'est l'homme qui déjà se bouge toute sa vie durant, quelque part. Alors, elle symbolise par les marcheurs. Pas parce que ce sont des populations qui migrent ou qui bougent, il y a ça aussi, mais pas uniquement. On est tous appelés à se lever, à marcher et à créer des choses, donc à bouger et à avancer quelque part. Et c'est vraiment ça, en l'occurrence, que l'on retrouve dans ces marcheurs, dans cette série des marcheurs.
Autre différence à prendre en compte, Darglo sculpte, mais Tanchiote peint, et il n'a pas été facile pour Frédéric Doll de disposer les œuvres à égalité, de façon à ce qu'aucune n'efface l'autre, mais qu'au contraire, elles se répondent.
On a essayé de mettre ces mouvements de population qui, quelque part, se croisaient, allaient dans tous les sens. Et le volume que l'on retrouve dans les tableaux, même si c'est 2 dimensions, est finalement amplifié par le fait que ces statues, presque, ce n'est pas du tout le même profil, mais presque pourrait sortir du tableau, si vous voulez. Et en soi, on va se promener aussi bien dans les statues de Darglo que dans cet arrière-plan que représentent les tableaux.
L'exposition Silent Walks, les marches silencieuses en français, est à découvrir à la galerie Retour de Voyage jusqu'au 20 juillet.
Alors on va poser la question à Sylvain Sancalet. Ce genre de rapprochement entre deux artistes de cultures différentes, il permet effectivement, comme le disait Amélie, de montrer à la fois ce qui rassemble et ce qui sépare les deux artistes. Et ça me fait penser évidemment à un autre artiste, parce que quand on regarde les marcheurs Sylvain Sancalet, on est obligé de penser à Giacometti, on est obligé de penser à l'homme qui marche. Est-ce que vous aussi?
Bah, si vous voulez, pour ma part, déjà, je suis biologiquement métisse, donc culturellement métisse, évidemment, aussi. Et je considère, pour ma part, qu'il y a chez les artistes et chez les êtres humains, d'une façon générale, des tas de correspondances qui permettent des dialogues et des échanges. Et pour moi, non pas la confrontation, mais la rencontre de plusieurs artistes ne peut qu'être bénéfique.
Mais est-ce que Giacometti a influencé Darglo? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas du tout?
Alors, Giacometti a pu influencer Darglo de la même manière que l'art étrusque a influencé Giacometti, que on retrouve chez Rodin des esquisses, notamment son Saint Jean-Baptiste, qui est l'une des représentations les plus connues d'hommes qui marchent. Vous voyez, on est dans des dynamiques qui peuvent se ressembler. De là à dire, est-ce qu'il y a eu véritablement une inspiration, une copie, ou à quel est le degré? Giacometti a pour lui l'antériorité, donc nécessairement on pense de l'un à l'autre, mais quand on voit les œuvres, puisque j'ai pris la peine de voir justement Giacometti à force de me l'entendre dire, quand on voit les œuvres, on se rend bien compte que l'esprit, la dynamique qui les sous-tend n'est pas du tout la même.
Alors, Jacques Royer, vous en avez discuté avec lui de ça, parce que j'ai lu qu'il n'aimait pas trop le rapprochement que beaucoup de critiques, et peut-être aussi beaucoup parmi le public, ont fait justement entre Darilo et Giacometti.
Non, je partage tout à fait le jugement de Sylvain, là, j'ai pas grand-chose à ajouter. Seulement, pour répondre clairement à votre question, le 10 novembre 2005, Darilo s'est payé une double page dans un quotidien sénégalais qui s'appelle Le Quotidien. Et le grand titre, c'était « Je refuse la comparaison avec Giacometti ». Et je crois que c'était un mouvement de colère, qui d'ailleurs n'a pas du tout touché ceux qui ont continué à vouloir comparer Darilo et Giacometti. C'est là où je dis on n'a pas voulu le laisser parler, ce garçon. Mais il est clair que Darilo connaissait Giacometti, considérait que c'était un grand artiste, non seulement un grand plasticien, mais qu'il avait une démarche de recherche de la perfection que partageait Darilo. Mais de là à dire que Darilo a fait du sous-Giacometti ou a copié Giacometti parce que ses personnages sont longilignes et marchent...
C'est un petit peu simplificateur, c'est le moins qu'on puisse dire.
Exactement.
Alors, on va terminer par la photo de l'artiste, parce que c'est une photo qui m'a beaucoup marqué. C'est la première image que l'on découvre lorsqu'on ouvre le livre. Pourquoi avez-vous choisi cette photo-là? Quelle image, justement, montre-t-elle de l'artiste?
Alors, c'est vraiment le hasard. Parce que la photographe qui a pris cette photo, qui travaillait pour elle à l'époque, qui s'appelle Francine Vormez, nous a envoyé cette photo, comme ça, de façon spontanée. Alors, ce qu'on trouve, c'est que Darilo porte une tenue qui est une tenue de Claire Kane. Claire Kane a été une styliste très connue au Sénégal, que Sylvain connaît beaucoup mieux que moi. Et pendant quelques années, Darilo n'a pas cessé de porter toute une série de tenues de Claire Kane, donc il y avait une proximité. Et le clin d'œil, c'est que dans les premiers détournements que réalise Darilo, on trouve un fer à repasser. Et que Francine Vormez a réussi à marier à la fois l'objet détourné et la tenue qui s'appelle fer à repasser.
Voilà, puisque effectivement, il tient ce fer à repasser effectivement à la main. C'est vraiment une très très belle photo. Et après, il faut évidemment se plonger dans les textes en français et en anglais, puisque c'est une monographie bilingue. Et puis prendre le temps évidemment d'admirer les œuvres que vous pouvez donc aussi, si vous passez par le département du Vaucluse, redécouvrir dans la réalité, cette fois dans les quatre expositions actuellement à l'affiche. Merci infiniment Jacques Royer et Sylvain Sancalet. Je rappelle que cette monographie Darilo le Démiurge est paru aux éditions des 5 continents.
Vous m'en direz des nouvelles ? Sur RFI.
Qui a dit que les petites communes de France étaient un désert culturel? Eh bien, pour tordre le cou à cette idée reçue, Marjorie Bertin s'est rendue la semaine dernière à Onzain. Onzain, ça se trouve en Touraine, pour l'ouverture de l'été musical des Douves, une 12e édition pour ce festival de musique classique rurale qui désacralise ce que l'on appelle parfois la grande musique. Impulsé par un passionné accompagné de bénévoles, c'est un rendez-vous qui accueille des artistes prestigieux qui acceptent de venir jouer bien loin des grandes salles et des tournées internationales auxquelles ils sont davantage habitués. Reportage.
Un dimanche sur deux, à 17h, la petite ville d'Onzain s'anime dans les jardins de ce que beaucoup appellent encore le château. Un petit îlot vieux de 1000 ans entouré de douves. Un lieu magique où les cygnes et les canards naviguent au milieu des roseraies et côtoient les artistes. Cette année, pour l'inauguration du Festival des Douves, Sébastien Grèce, propriétaire de ce lieu magique et créateur du festival, a invité trois virtuoses du piano, du violoncelle et du violon. Au menu, Schubert et Brahms. Et malgré un ciel gris et le souvenir du Covid, les spectateurs sont nombreux et très réjouis.
C'est très bien, ça y est, je peux quand même venir pour la première fois. On est content aussi de pouvoir sortir, parce que tout avait été confiné, donc ça fait du bien. C'est la musique en elle-même, c'est pas écouté à la radio, c'est en direct. Et donc, quelque part, c'était très agréable.
C'est la vie qui redémarre. Ça fait oublier la période passée, qui même si elle avait des bons côtés, c'était pas la vraie vie.
Et alors, ça vous plaît ?
Ah, c'est magnifique. Le cadre est magnifique et la façon dont c'est fait, avec simplicité, etc., nous permet de nous sentir tout à fait à l'aise avec un accueil vraiment super.
Accueillir avec simplicité pour toucher le plus grand monde est au cœur de la démarche de Sébastien Grèce.
C'est un lieu qui avait été abandonné une douzaine d'années avant qu'on reprenne et qui n'avait jamais été ouvert au public avant. Donc il y a eu d'abord une naturelle curiosité.
Je crois qu'il y a du cinéma aussi au Festival des Douves.
Oui, parce qu'en fait, le bel été des Douves regroupe deux choses. L'été musical des Douves, ça c'est le festival de musique de chambre, et deux soirées qu'on appelle les nuits des Douves. On aura une nuit d'hommage à Piccoli avec une première partie de jazz, et puis une nuit baroque. Il y aura des lectures musicales de textes de Leopardi sur Copernic, accompagné au clavecin. Et ensuite, on passera Tous les matins du monde, le grand film qui a fait connaître la viole et la musique baroque au grand public. Ces soirées-là font venir un tout autre public, qui parfois, après, a la curiosité de venir au concert classique.
Pour le pianiste belge Julien Gernet, Onzain est aussi une belle opportunité qui lui permet de jouer dans un contexte différent.
On se sent très bien accueilli, très détendu, et donc on partage la musique de manière rapprochée avec le public.
Et avec les animaux. Aussi, on
avec les animaux, oui.
Vous êtes plutôt un habitué des grandes salles. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer devant un public beaucoup plus restreint?
Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, avoir le public très près. Ça me permet d'avoir un lien et de sentir presque l'oreille m'écouter. On forme une entité, en fait.
Jouer dans un espace plus petit, c'est aussi retrouver le contexte de création de ces trios de Brahms et Schubert. Pierre Fauchaneret.
À l'origine, il était absolument impossible, impensable, de jouer un trio de Schubert devant 2000 personnes. En fait, Schubert, quand il organisait ses Schubertiades, il jouait 8 heures de sa musique avec des amis et un public très réduit. C'était pour ces jauges-là que cette musique existait.
Un festival pour lequel tous sont fédérés par la passion et l'amitié.
J'adore venir ici parce que c'est un cadre unique, assez magique, et que c'est fait avec énormément d'authenticité et de sincérité. C'est un partage humain avant tout. Avec Sébastien, on se rencontre, on parle de musique, on parle de nos passions, et sa partition à lui, c'est les Douves d'Onzain, et il la chérit chaque jour. Et puis ben, moi, c'est Brahms, Schubert, et je pense qu'on peut retrouver beaucoup de choses en commun là-dedans, et ça crée des liens très forts.
Reportage de Marjorie Bertin pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec la romancière Catherine Cusset pour un carnet de voyage intitulé « Trois fois au bout du monde » paru chez Gallimard. Trois courts récits qui nous emmènent successivement au Népal, au Costa Rica et en Chine. À demain donc, et vous m'en direz des nouvelles.